Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, le goût des saisons, des tomates sucrées par le soleil d'été, des mûres, des raisins, des fromages frais, autant de bonheurs périssables qui peuvent se transformer en saveurs durables, en réserves, en provisions pour l'hiver, pour ces mois plus rigoureux où la nature se replie, où l'abondance est passée. Au Liban, cette transformation, la confection de ces réserves est une tradition profondément ancrée dans la culture du pays. On l'appelle la mounée. Mouné du verbe mana, qui veut dire préserver, provisionner, qui, quand on y pense, en fait, est un peu un langage universel, conservé pour se nourrir demain. N'est-ce pas, Karim Haïdar ? Bonjour Karim.
Bonjour Clémence.
Vous êtes cuisinier libanais, passeur de culture culinaire et chef dans le 15e arrondissement à Paris de la boutique à manger, c'est comme ça que vous l'avez appelée.
Tout à fait.
Elle s'appelle Les mots et le ciel, cette boutique à manger. Vous êtes passionné, entre autres, de ces transformations et de ces traditions dont nous allons parler tout au long de cette émission. Nous sommes en ligne également en direct du Liban, de la Beka West, avec Yousra Boustros. Bonjour.
Bonjour Clément.
Vous êtes du côté, alors je vais le prononcer correctement, de Herbet Karnafar. C'est correct ou pas?
C'est correct, c'est bien prononcé.
Vous êtes une femme qui a la chance de vivre 1000 vies. Vous êtes une ex-citadine, vous êtes une promeneuse et vous êtes une autodidacte. Et ensemble, tous ensemble, nous allons bien sûr parler de cette mounée. Vous avez, avec votre mari Yousra, une maison. Et chaque année, vous ouvrez votre maison justement pour ce moment spécial, pour un week-end spécial mounée. Une ouverture pour vous, la citadine, une métamorphose peut-être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient cette vie, d'où vient cette maison à la Beka?
Écoutez, cette vie a commencé par une histoire d'amour, tout simplement. De là où j'étais une citadine, qui travaillait dans la ville et tout ça, j'ai rencontré mon mari. Et mon mari est de la région ici, il était militaire. Et quand il a pris sa retraite, il a décidé de construire une maison à la Beka et nous avons décidé de nous installer. Et quand nous nous sommes installés, nous avons lancé un projet parce que tous les deux, nous sommes des amoureux de la nature, de l'environnement et de la bonne nourriture. Donc, nous avons lancé un projet qui s'appelle Herbet Karnafar Promenade. C'est un projet qui a pour but avant tout de faire découvrir la Beka West aux personnes qui ne connaissent pas la Beka West, qu'ils soient libanais ou qu'ils soient étrangers. Et donc, nous organisons des randonnées de 2 heures. Et après les randonnées, nous partageons notre table avec les randonneurs. Et nous présentons des produits de la région. À partir de là, j'ai fait la connaissance des dames du village qui m'ont introduite à la mounée. Et c'est comme ça que nous avons décidé de faire chaque année à la fin de l'été 2 jours de portes ouvertes pour la promotion et la vente de ces produits.
De ces produits et de ces traditions, j'imagine également.
Exactement.
Vous connaissiez déjà, vous, la tradition de la mounée?
Je la connaissais, je mangeais par exemple le keshek, qui est un des produits phares de la mounée. Je le mangeais, mais sans jamais savoir comment on faisait le keshek et quelle était la philosophie derrière le keshek. Ou la awarma, par exemple, qu'on mange avec le keshek, qui est un confit de viande, ou sinon qu'on mange avec des œufs. Donc je savais que ça existait, mais je ne savais pas comment ça se faisait. Et le premier à m'avoir fait découvrir comment on faisait de la awarma, par exemple, est mon mari.
Il va falloir nous raconter tout ça. Mais là, vous allez vite,
oui.
Parce qu'on ne sait même pas ce que vous voyez quand vous êtes chez vous, là. Si vous ouvrez, regardez autour de vous, dehors, qu'est-ce qu'on voit quand on est chez vous?
De ma fenêtre, maintenant, parce que je suis en intérieur, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'ai les coteaux de Kefraya et j'ai mon jardin avec mes arbres fruitiers et mes cèpes de Cabernet Sauvignon, parce que nous plantons aussi du raisin. À ma droite, il y a l'Anti-Liban, qui est la montagne qui nous sépare de la Syrie. Avant tout, il y a la plaine agricole de Herbet Karnafar, qui est la plus grande plaine agricole de la Beka West. Et à ma gauche, il y a le mont Liban. Nous épaulons, nous, le mont Liban. Nous sommes au pied de la montagne, qui est grand, majestueux, magnifique, avec la réserve du Barouk au-dessus, des cèdres du Barouk.
Vous connaissez, Karim Haïdar, cette région du Liban?
Ma famille est originaire de la Beka, en tout cas mon père. Donc, de ce fait, je connais un petit peu, mais en immigré, je ne vais pas souvent. Et donc ça doit faire très longtemps, ça doit faire depuis que j'ai emmené mes enfants visiter la Beka il y a une dizaine d'années que je n'y ai pas été.
Et donc la Beka et la mounée. Je voudrais savoir, Karim Haïdar, la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois qu'on est très 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 rapidement parlé de ces provisions qu'ensuite on sert sur la table et qu'on prépare. La mounée pour vous?
Alors la mounée c'est essentiel et c'est le retour à la nature et à la saisonnalité. C'est prendre un produit à un moment déterminé qui existe, qui ne sera pas là après, et le transformer de manière à pouvoir le consommer souvent autrement, plus tard. La Mounet, c'est avant le frigo. Et on va dire qu'en réalité, aujourd'hui, toute la vie, peut-être hier plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques années, on était dans cette frénésie de vouloir tout avoir à tout moment sur la table, et les avions transportaient les produits de partout, et on congèle, et on conserve au frigo. À un moment, la Mounet, je pense qu'elle a été remplacée par le congélateur et le réfrigérateur, et le transport à droite à gauche de tous les produits frais, de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord et inversement. Aujourd'hui, on part dans l'autre sens, on veut un retour à la nature, on veut quelque chose de plus respectueux de l'environnement, et on se met, même ici en France, on se met à acheter des produits saisonniers, à essayer d'acheter des produits qui ne viennent pas de plus de 100 km autour. Donc bien entendu, on voit comme ça, par exemple, si je prends un exemple tout simple, au fond, on y pense pas, mais la Mounet, par exemple, c'est la sauce tomate, c'est de la Mounet. C'est la tomate qui va en réalité pousser, bon, au Liban un peu plus longtemps, mais ici, si vous prenez des tomates autour de Paris, les tomates mûrissent pendant un petit mois. Et donc, pendant ce petit mois, il faut récolter toutes les tomates et en faire quelque chose qu'on va conserver. Et c'est cet esprit-là qui est derrière la Mounet. Donc, comme vous l'avez justement dit, c'est dans tous les pays du monde, partout. On a plus de produits à une certaine saison qu'à une autre. Et ces produits-là, on essaye de les conserver en les modifiant. La congélation ne fait pas la même chose, parce que la congélation, l'idée, c'est de préserver le même produit. Mais ce que je trouve très beau, c'est de manger un produit qu'on a modifié pour le conserver et d'avoir un autre goût, qui parfois même est préféré par les gens au goût d'origine. Et donc, on va récolter quelque chose au printemps. Et en fait, on va préférer la manière dont on va le manger en plein hiver quand il a été préservé, plutôt que de le manger au printemps. Et ce jeu de saisonnalité et de saveur, pour moi, est magnifique. De l'autre côté, il y a d'autres produits. Je parlerai de la moulourie. La moulourie, c'est la corette. Donc, c'est une herbe, c'est des feuilles qu'on fait sécher. Et vraiment, là-dessus, on est encore dans autre chose. Le plat qu'on fait avec cette moulourie est un plat hivernal. Mais sauf que la moulourie, elle pousse pas en hiver. Et donc, quelque part, soit on la mange en transpirant, en la mangeant, parce que c'est comme une soupe chaude, un ragoût avec une sauce, du riz, etc., en plein été, soit on fait sécher la feuille et on la mange en plein hiver, où je trouverais presque plus naturel de la manger.
C'est ça qui est fantastique, c'est dans cette transformation, c'est déjà donner une nouvelle vie à un aliment qu'on pensait périssable et donc vraiment très momentané, et transformer ce goût. Yousra, c'est quelque chose que vous appréciez également. Vous, vous avez découvert toutes ces méthodes, parce que la Mounet, c'est un savoir-faire, ce sont des traditions dont on va parler évidemment, qui signent un goût du coup. Quand vous entendez Karim parler ainsi, c'est que vous, j'imagine que vous partagez pleinement ce qu'il dit.
Exactement, et je trouve qu'il y a dans la Mounet une préservation à deux niveaux. Il y a avant tout la préservation de l'aliment, d'accord, pour le consommer durant la saison froide. Et il y a la préservation aussi d'une identité culturelle et d'un patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, la Mounet est le fruit d'un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération, de mère en fille. Donc là aussi, c'est garder des traditions. Il y a préserver de la nourriture, conserver de la nourriture et garder des traditions.
Alors justement, vous avez, Yousra, évoqué le keshek. S'il y avait des incontournables dans la Mounet, qui est donc la préservation de ses aliments dans ses approvisionnements, lesquels ce seraient? Et j'imagine qu'il y a le keshek qui arrive en premier.
Oui, exactement. Il y a le keshek qui est un incontournable, qui est une préparation à base de yaourt fermenté et de bulgur en arabe ou de bulgur en français, qui est du blé concassé. Le tout est mélangé et séché après au soleil, de préférence le soleil de juillet, parce que c'est un soleil qui est plus bas. Les nuits, comme il est séché sur les toits et les vérandas et les terrasses, les nuits ont intérêt à être sèches et qu'il n'y ait pas de rosée comme fin juin ou début septembre. Et après, le tout est, est moulu et ça fait une poudre blanche qu'on consomme après en hiver en une soupe qu'on fait diluer et qu'on consomme en soupe avec de l'ail et de la awarma. Ou sinon, elle est idéale aussi pour faire de manaïch. La manaïch, c'est la pizza libanaise. Donc avec de la tomate et des oignons, et on mélange à la poudre, et ça fait d'excellents manaïch.
C'est à la source, oui, ce keshek, parce que si on vous comprend bien, on est d'accord que c'est une fermentation du lait, du fromage, qui ont fait sécher ces plusieurs étapes pour arriver à ce kéchek.
C'est beaucoup d'étapes. Déjà du beurrol. Le beurrol déjà est un élément préservé, déjà un produit de mouné a déjà été cuit, séché, etc., qui est ensuite mélangé avec un laitage. Et c'est magnifique d'avoir les deux mélangés. Et il y a ce travail ensuite qui consiste à faire sécher au soleil.
Au soleil de juillet,
et ça j'adore parce que ça, ce sont des choses que je ne sais pas que Yousra connaît. Donc au soleil donc de juillet. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qu'on mange qu'à un petit moment là. En entendant parler des Yousra de Keshek, ça m'a fait penser à ça. Un souvenir d'enfance qui est la manière dont je préfère le Keshek, qui n'est ni dans la soupe, ni sur la manouché. Mais en fait, quand le keshek n'est pas encore totalement sec, et on appelle ça de la keshke khadra, donc khadra ça veut dire verte, qui est, en fait, c'est encore une espèce de pâte. Et cette pâte-là, on rajoute dessus des olives et des noix, et on mange ça avec un filet d'huile d'olive. Et alors là, qu'est-ce que j'ai faim d'un coup. Et Yousra, je suis sûr, va m'envoyer l'année prochaine du keshke khadra, n'est-ce pas?
Bien sûr, Karim, je te l'enverrai en juillet. Voilà. Et tu as oublié l'oignon vert, c'est très bon avec l'oignon vert aussi.
Et qui du coup, alors cet oignon vert justement, est-ce qu'on le préserve également, peut-être en saumure, peut-être dans de l'huile, cet oignon?
L'oignon vert, non, on ne le préserve pas, on attend qu'il soit bien formé avant de le cueillir.
Et après, en fait, voilà, on se retrouve après avec d'autres types d'oignons, justement. Mais comme parliez du produit, peut-être de la moune est le plus intéressant. Le deuxième est celui dont Yousra a parlé, qui est la awarma. Mmh. Et la awarma, là, touche à un produit magnifique qui est la liée. Et la liée, c'est le gras d'agneau. Et c'est ce gras d'agneau qui nous permet de faire de la awarma, qui est un confit d'agneau cuisiné dans le gras. Donc exactement là, on se rapproche de ce qu'on fait dans le sud-ouest quand on fait un confit de canard. Sauf que là, c'est un confit d'agneau. Et ce confit d'agneau, on peut le faire parce qu'on a cet agneau, cette espèce d'agneau spécifique à queue grasse, qui permet en fait d'avoir une poche de gras, exactement comme le gras du canard ou de l'oie, et qui permet donc de faire confire directement des morceaux d'agneau dedans. Et ça, c'est magique d'abord rajouter au keshek, donc ça vient se rajouter encore, c'est très intéressant.
Faudrait que vous voyiez, je vous enverrai des photos de Karim qui sourit
en pensant à manger. Et aussi avec des œufs, le awarma avec des œufs, c'est je pense un roi du grand petit déjeuner libanais. Donc faire fondre ce awarma et puis casser quelques œufs dessus, c'est vraiment magnifique.
Yousra, je vais vous poser une question, mais je voudrais juste préciser auprès de nos auditeurs que cet agneau provient d'une race bien, bien spécifique, bien particulière, à queue grasse, vous avez dit, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que ce mouton a sa queue qui se développe au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il s'engraisse en réalité. Et c'est cette queue qu'on utilise ensuite pour faire la warma?
En fait, on utilise la chair donc de l'agneau normal, mais on utilise cette boule de gras, qu'on appelle une boule de gras, qui s'appelle la liée, et qui est en fait, cet animal a un morceau de gras pur, presque pas veiné, rien, juste du gras, il suffit de le mettre et il fond. Et c'est effectivement ce gras qui permet cette préparation-là, et quelques autres préparations d'ailleurs, mais peut-être moins dans le sujet, donc moins dans la mounée. Puisqu'il arrive par exemple dans les grillades, donc dans les barbecues d'été, pas d'accord, du tout en mounée, de couper des petits morceaux de ce gras et de les faire griller directement au barbecue. Et qu'est-ce que c'est bon aussi.
Goût du monde, Clémence de Navi.
وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك.
Marcel Ralifé sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Yousra Boustros, auteure, intellectuelle, on peut dire citadine surtout, devenue promeneuse, partie vivre du côté de la Beka Ouest avec son mari, une nouvelle vie, un apprentissage aussi, au jour le jour, au gré des saisons. Et Karim Agdar, cuisinier, passeur de culture culinaire dans sa boutique à manger Les Mots et le Ciel à Paris, boutique à imaginer et à penser aussi. Cette chanson, traduite en français, son titre, ça veut dire « Ma mère ».
Voilà.
C'est vous qui l'avez choisi, Karim. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on, je sais pas, parce qu'on parlait de la Mounée, parce qu'on parle du Liban, et en fait, elle dit "Ahounou li khoubzi oumi", c'est-à-dire j'ai une certaine tendresse. Je me souviens du pain de ma mère et du café de ma mère. Mais c'est une chanson qui n'est pas libanaise, puisque c'est la chanson, c'est un texte de Mahmoud Darwish, qui est le grand poète palestinien. Et là-dedans, bien sûr, ce dont il parle, c'est sa nostalgie de son pays. Derrière sa mère, bien entendu, de la Palestine, dont il a été, par la force des choses et par la force tout court, exilé. Et là, c'est chanté par Marcel Khalif. Et donc, effectivement, ça donne la touche libanaise. Et je pense que ça parle de beaucoup de choses. Et quand même si on parle de choses gaies et agréables, ça peut parler et rappeler quand même, parce que je pense que c'est très important, qu'aujourd'hui, à nouveau, comme il y a longtemps, beaucoup de Libanais quittent le pays avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'un jour, ces Libanais-là vont penser, écouter cette chanson, pleurer encore, comme on l'a fait nous-mêmes quand nous avons quitté le pays pendant des années et des années. C'est à la fois le rappel des éléments olfactifs, bien sûr, dans le pain, dans le café, de la mer, mais la mer, c'est souvent la patrie, c'est souvent le pays, la terre, le terroir. Et donc, quand on parle de la Mounée, comme on en parle aujourd'hui, on parle de ça, naturellement.
C'est aussi un moyen d'emporter avec soi des bouts de cette terre et des parfums de cette terre et des goûts, justement.
Tout à fait, car ce sont les produits, souvent, la walma dont on a parlé, le keshek sont des produits qui se transportent très bien, mais le zartal aussi, qui se fait sécher, est une Mounée.
Dites-moi, Yousra, quand vous entendez cette chanson, ça vous évoque quoi ?
Ça évoque la mer.
La mer.
La mer, comme Karim a dit, c'est la mer. Et la mer, c'est la cuisine, c'est la chaleur du foyer, les traditions, la Mounée.
Yousra, j'imagine que quand vous êtes arrivée dans votre maison avec votre mari, vous n'aviez sans doute jamais vu la warma en train d'être réalisée. Quel a été votre premier contact concret, justement, avec la fabrication de cette Mounée ?
Alors, mon premier contact concret a été il y a à peu près 9 ans, quand je suis venue passer un été ici. Donc, c'était avant que je m'installe définitivement. Et mon mari a été chez le boucher, donc je l'ai accompagné. Et je l'ai vu commander la viande et le gras. On est rentré à la maison, il a allumé le feu et il a mis ce gras qui a commencé à fondre et qui fond doucement, mais qui fond harmonieusement. Et puis, il a mis dedans la viande hachée. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de rapide, qui allait se faire rapidement. Et en fait, la viande a passé au feu pendant 3 heures à peu près, 3 heures et demie. Parce qu'il y a toute une technique de cuisson. C'est pas difficile à faire, mais tout le secret de la warma est dans la cuisson et après dans la façon de saler. Il faut bien saler la warma, sinon on a des risques de pourrissement, que le produit se gâte. Et j'étais là assez fascinée. Et ce qui était très bon aussi, c'est quand il a mis la warma en pot et qu'elle en est restée un peu, nous avons fait, comme a dit Karim, avec des œufs. Et là, c'est vraiment à tomber. Maintenant, il faut oublier côté poids, surpoids, cholestérol, etc.
Non, c'est pas dans l'actualité de cette émission aujourd'hui.
Voilà.
L'idée, c'est quand même, normalement, quand il fait très froid, de pouvoir se réchauffer et se nourrir, bien vivre de manière active. Donc, on a besoin de calories.
Et hier, on faisait du awarma dans notre boutique à manger pour, justement, les produits conservés pour l'hiver. Et la difficulté que nous avons, nous n'avons pas ce gras-là, nous n'avons pas l'allié. Et donc, ça rend la chose un peu plus complexe. Ça nous oblige à faire fondre du gras d'agneau, mais là, veiné avec plein de morceaux, etc. Et ensuite, à le passer pour avoir vraiment que le gras fondu, pour ensuite cuisiner la viande dedans. Et ça prend un certain temps. Et après, on les moule dans des petits pots en terre cuite. Et je pense que ça va être super.
C'est une signature gustative libanaise par excellence ou on est vraiment dans une région ?
Franchement, je ne saurais pas dire, mais je crois qu'on est dans une région, je suis certain que ça existe en Syrie, dans le nord de la Palestine aussi. C'est un petit peu la même cuisine. Et au-delà de se rajouter sur les œufs, par exemple, c'est très intéressant sur une assiette de hummus. Donc du hummus avec du hawarma dessus, quelques pignons de pain.
Purée de pois chiches, traduit de temps en temps. Parce que...
Voilà, purée de pois chiches avec du tahiné, du jus de citron dedans. Disons que ça transforme ce plat qui est un plat très bon déjà, mais assez simple en véritable repas de fête.
Yousra, quelle découverte que de mettre les pieds justement dans des traditions. Vous aviez sans doute goûté de la hawarma en ville ou avant dans votre vie, et là j'imagine qu'elle avait un tout autre goût.
Oui, exactement. Elle avait tout à votre goût parce qu'elle avait été faite par mon homme. De un. De deux aussi, je voudrais ajouter que la hawarma ici se mange aussi avec de la labneh. On fait des kebbeh de pommes de terre qu'on farcit de labneh de chèvre et de hawarma. Et c'est grillé au feu de bois. C'est une spécialité de la Bekaa West. Ça s'appelle la kebbeh batata bi hawarma. C'est très très bon. Et ça se mange avec une salade de mâche et de tomates.
On mange là.
On est presque à table, effectivement. À table, et c'est une recette merveilleuse.
Oui, ça a l'air merveilleux.
Et puis là, on parle d'un autre produit, donc le fromage de chèvre, qui là aussi, sur les laitages, on fait beaucoup de laitages qu'on va conserver.
La labneh.
Donc la labneh, naturellement.
C'est aussi une mounée.
Un petit peu, mais là où la labneh devient véritablement une mounée, c'est quand elle est mise en boule dans l'huile d'olive. Et donc là, préservée pour une durée indéterminée et infinie, enfin, sauf quand on a très envie de la manger et qu'on la finit très vite. Et c'est un produit magique. Et là encore, c'est-à-dire c'est un produit transformé. Mais c'est un produit transformé qu'on aime tel qu'il est. Et je reviens là-dessus, parce qu'en fait, on n'aurait jamais fait de hawarma si on voulait pas préserver. On n'aurait pas pensé faire ça, genre faire une hawarma pour la manger tout de suite,
oui,
ça
si
viendrait
on
pas à l'esprit.
Si
on avait la viande tout le temps, on n'aurait sans doute pas fait de hawarma. De la même manière, on n'aurait pas fait de la superbe labneh dans l'huile d'olive si on n'avait pas eu besoin de la conserver, parce qu'il y a une période où les chèvres et les brebis donnent moins de lait, et donc si on n'avait pas besoin de conserver. On a un autre fromage comme ça, qui s'appelle, d'ailleurs qu'on est en train de faire actuellement, qui est un fromage où on conserve le fromage et on le roule dans le za'atar. Donc dans l'origan, sésame, sumac, le roule dedans, ça s'appelle le chenklish, ensuite c'est coupé, c'est mangé en salade, et ça aussi c'est un fromage qu'on fait sécher, qui se conserve très très longtemps. Je vire un petit peu du Liban pour descendre plus bas, donc en Palestine-Jordanie, puisqu'on parlait de la région, où ils ont quelque chose d'un petit peu similaire, mais assez étonnant, et en fait où ils conservent un fromage de manière qui devienne très très sec, mais comme une pierre. Mais là, une véritable pierre, hein. Il faut un marteau pour le casser. Et c'est un fromage qui s'appelle Jamid. Et ce fromage ensuite est utilisé dans la cuisine, et pour l'utiliser dans la cuisine, on est obligé de le retremper dans l'eau. Mais c'est normal qu'on parle de sud là-bas, du sud de la Palestine, du sud de la Jordanie. C'est une région de Bédouins, et donc de gens qui avaient besoin de transporter ce fromage. Et dans ce petit fromage qui pèse quelques dizaines, voire 100 ou 150 grammes, il y a en réalité à l'origine plusieurs litres de lait, et le côté nourrissant de plusieurs litres de lait. Donc là encore, on est dans un élément de mounée et ce produit se conserve
indéfiniment.
Comme les pierres, je pense.
Comme les pierres. La mounée, quand j'entends mounée, j'entends aussi manée, comme les mains. Alors c'est des mains qui trient, qui nettoient, qui pilent, qui broient, qui caressent, qui organisent, qui nourrissent, ces mains qui cueillent aussi. Est-ce que les mains ne sont pas l'outil essentiel de la mounée ? Yousra.
Si, elles sont indiscutablement les outils essentiels de la mounée. D'ailleurs, si vous voyez mes mains maintenant, elles sont jaunes parce que nous avons cueilli les noix du jardin que nous utilisons aussi pour la mounée. Et donc, en cueillant les noix, les noix noircissent les mains.
Et comme le noir des murs, n'est-ce pas, quand on cueille des murs. Ça,
oui,
c'est un autre souvenir aussi.
Oui, tout à fait. Mais à la différence près qu'avec les murs, avec un peu de savon, ça s'en va. Tandis que là, je vais avoir les mains noircies pendant à peu près une semaine.
Mais pour la bonne cause. Qu'est-ce que vous en faites ensuite des noix qui interviennent dans la mounée, dites-nous?
Alors, nous utilisons les noix pour le makdous batenjen. Ce sont des petites aubergines violettes qui sont bouillies, pressées. On les presse après les avoir bouillies pour éliminer toute l'eau. Puis elles sont fendues et on les farcit de noix, de poivron rouge, et on les conserve après dans de l'huile d'olive aromatisée à l'ail. Et pour les personnes qui aiment le piment, on peut mettre aussi du piment. Et donc ça aussi, le Makdous Batenjane fait partie de la Mouné.
Et c'est notamment un des aspects de la Mouné qu'on va pouvoir découvrir en venant chez vous, lors de votre maison ouverte, justement, la découverte de ces produits. On a parlé pour l'instant de la fermentation, il y a l'instant du séchage au soleil, le soleil de juillet, de la saumure peut-être. Vous conservez vos aliments plutôt dans quoi? Quel type de saumure vous faites, Yousra?
Moi, les saumures, c'est surtout, je fais les aliments que je conserve dans des villes, comme le Makdous Batenjane. Et le Makdous, donc c'est le Makdous d'aubergine. Et le Makdous de loubier, la loubier, ce sont les haricots. C'est la même recette, mais c'est une façon de conserver les haricots aussi. Pour ce qui est saumure, c'est-à-dire eau salée, il y a des dames du village qui font, si vous voulez, les concombres se conservent en saumure. Les tomates vertes qui sont très bonnes, qu'on conserve aussi en saumure. Il y a les petits concombres qu'on appelle les concombres d'Arménie, qu'on conserve en saumure avec un peu d'ail. Donc tout ça fait partie des produits qui sont conservés en saumure.
Et vous, Karim Haïdar, cette saumure plutôt eau salée, plutôt huile d'olive, plutôt...
Nous faisons les deux. Là, on attend un petit peu pour avoir, parce que bon, on est un peu sur des saisons un peu décalées par rapport au Liban, d'avoir des grands arrivages de ces petites aubergines, justement, dont parlait Yousra, pour s'attaquer au Makdous. Puis on attendait les noix aussi, donc c'est un peu normal. Mais on fait beaucoup de concombres en saumure, de petits navets en saumure, de petits choux-fleurs, et c'est très agréable parce que c'est encore une fois un autre goût. Autant ici on a du mal, mais on cherche ces petits concombres magnifiques, on est ravi de les manger tels qu'ils sont, de les croquer quand ils sont encore croquants, plein de leur fraîcheur, même avec la petite fleur au bout quand on les achète. Et puis moi parfois j'ai pas envie de les mettre en saumure parce que je me dis non, c'est trop bon comme ça. Et bon, finalement, sur les 20-30 kilos qu'on ramène pour mettre en saumure, on en mange 10. Et puis on finit de mettre en saumure le reste. Mais quand quelques mois après, il y a plus de concombres et qu'on s'attaque à nos saumures, eh ben, c'est un autre ravissement et on se dit l'année prochaine, j'en ferai plus.
Ce qui est formidable aussi dans cette Mouné, c'est que déjà elle ressurgit sur la table à un moment donné quand on a justement oublié presque le goût des tomates et le goût des concombres. Elle fait partie des repas. Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ces repas?
Alors, sur la partie saumure, ça s'inscrit essentiellement, sauf pour le Makdous, donc l'aubergine farcie, c'est soit un condiment, tout simplement, donc qui va venir se rajouter sur une viande, beaucoup sur des sandwichs, soit en apéritif, c'est-à-dire qu'on va manger des morceaux de concombre en saumure, de navet en saumure, à l'apéritif, grignoter avant. Mm-hmm. Et en plus, c'est très bon pour la santé, la saumure.
Ce qui est intéressant, c'est que la Mouné, en fait, c'est un mot qui rassemble énormément de techniques, de savoir-faire, de traditions pour traiter les choses. Mais en fait, le dzatar, c'est une forme de Mouné également, puisqu'on va conserver la plante et la sécher, les pignons de pin également. C'est l'acte de conserver qui rend à tout cela le terme de Mouné. Mais c'est extrêmement vaste.
En réalité, c'est quasiment tous les produits peuvent se transformer. On a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi, par exemple, les cornes grecques, ce qu'on appelle les cornes grecques, qu'on appelle bémienou, gombos.
Les gombos, oui.
Voilà, qu'on va accrocher à des fils, donc un par un, vous vous rendez compte, hein, c'est comme si on tricotait, on les met tous dans un fil et on les met à sécher, là encore, au soleil. Alors, Yousra nous dira à quel soleil, parce que je ne sais pas, on les fait sécher
Yousra,
à quel soleil.
Écoutez, les cornes grecques ne sont pas très plantées chez nous, donc je ne pourrais pas répondre à quel soleil, mais normalement, idéalement, c'est sûrement un soleil de juillet et d'août. C'est le soleil qui fait le plus sécher, mais je ne sais pas si on les met directement au soleil, parce que des fois, le soleil fait noircir. Par exemple, la mûrier, on ne la fait pas sécher au soleil, on la fait sécher à l'ombre. Voilà. Et donc, je pense que pour les cornes grecques, c'est pareil. Il faut faire sécher à l'ombre.
Sécher à l'ombre, voilà. Ça,
moi, ça, c'est un des regrets que j'ai. Tu voyais, j'ai jamais fait sécher de cornes grecques. J'ai jamais fait sécher de mûrier. Voilà.
Et ben, il faudra.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Serge Rachmaninoff, rhapsodie sur un thème de Paganini. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec le chef libanais, passeur de culture Karim Haïdar. Sa boutique à manger, les mots et le ciel, est dans le 15e arrondissement. C'est un refuge. Et avec nous également, en ligne de la Beka West, au Liban, Yousra Boustros, qui a découvert finalement tard ses savoir-faire liés à la monnaie. Et c'est vous, Yousra, qui avez choisi ce morceau. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce morceau? Vous allez me dire l'amour.
Exactement. En fait, quand je prépare ma monnaie, il y a toujours de la musique qui m'accompagne. Je suis grande amatrice de classique, donc j'aime beaucoup Mozart. Mais j'aime particulièrement Rachmaninov. Ça doit être cet amour, peut-être je l'ai hérité, c'est dans mes gènes, parce que j'ai une arrière-grand-mère russe. Et donc j'ai un peu cette âme slave qui est parfaitement interprétée par la musique de Rachmaninov. Et j'ai découvert cette rhapsodie dans un film américain il y a très longtemps qui s'appelle « Somewhere in Time », qui veut dire « quelque part dans le temps ». Quelque part, le thème central de ce film est le voyage dans le temps, et c'est une très belle histoire d'amour. Donc aujourd'hui, pour moi, ma monnaie est le fruit d'une très belle histoire d'amour avec un homme de la Beka West qui m'a fait aimer et découvrir sa région, au point où j'ai abandonné ma vie citadine pour le suivre et partager avec lui son amour pour cette terre qui est abondante, qui est généreuse, qui est hospitalière, et dans laquelle je voudrais passer un jour très lointain, l'éternité, et me fondre en elle au point d'en faire partie. Et ma monnaie aussi est un voyage dans le temps, parce que du fait même que pour l'élaboration de la monnaie, j'ai recours à des recettes et des méthodes héritées d'un savoir-faire ancestral, et qui perdure et qui est constamment mise à jour.
C'est très beau. C'est une belle histoire d'amour, en sachant que la notion du temps est évidemment très très importante dans cette monnaie. On l'a entendu depuis le début de cette émission, savoir prendre le temps pour le soleil de sécher les figues, le temps pour le soleil également de sécher les tomates. Le temps, c'est un peu la clé de cette monnaie également, pour pouvoir ensuite conserver dans le temps. Karim Haïdar.
Oui, le temps toujours, bien sûr, dans la monnaie.
Savoir prendre le temps, en fait.
J'étais encore, oui, c'était voilà, bon. Et là, je prenais le temps parce que j'étais encore en train d'écouter Yousra après qu'elle ait arrêté de parler, parce qu'effectivement, et puis c'est très beau que ce soit une histoire d'amour. D'abord, c'est toujours une histoire d'amour qui mène à la cuisine, et la cuisine en elle-même est une histoire d'amour, et la monnaie est un bout de la cuisine. Le temps, bien sûr, le temps, puisque la monnaie tout entière tourne autour du temps. Il s'agit de transporter, en fait, un produit dans le temps. Donc, bien sûr, la monnaie et le temps, c'est inséparable.
Yousra, il y a aussi, on n'a pas parlé évidemment encore, mais je crois que c'est une de vos spécialités, ce sont les confitures.
Oui.
Des confitures de figues.
Les confitures de figues, exactement.
La confiture, c'est monnaie, la confiture, on est d'accord.
La confiture, c'est la monnaie par excellence. Ah. C'est un peu de soleil d'été en hiver, parce que les fruits sont gorgés de soleil d'été. On les mange à toute saison, mais en hiver, c'est encore meilleur, parce qu'on a besoin de calories, on a besoin de se réchauffer. Alors la figue, avec moi, c'est une histoire d'amour aussi. D'ailleurs, je trouve que, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé que la pomme était le fruit défendu. Moi, je pense que la fruit défendu aurait dû être la figue, qui est un fruit très sensuel. Et d'ailleurs, le figuier est cité plusieurs fois dans la Bible, avec la vigne et l'olivier, et c'est un arbre prophétique. Donc, je trouve que la fruit est un arbre magnifique, parce qu'elle est facile à cultiver. C'est un arbre qui ne requiert pas beaucoup d'entretien, qui est en guillemets écologique parce qu'il est résistant aux maladies.
Qui a des feuilles magiques.
Qui a des feuilles magiques, exactement. Et qui pousse dans n'importe quel sol. Il n'a pas besoin de sol riche. Il peut pousser dans un sol pauvre. Il n'a pas de problème. Et c'est un arbre qui est généreux. La seule chose qu'il redoute, c'est les grosses chaleurs en début de saison. Parce que quand il fait très chaud en début de saison, le fruit risque de pourrir et tomber très vite. Donc ça, c'est le seul risque. C'est un arbre qui est facile à cultiver. Donc, nous commençons nos confitures de figues. Nous avons 6 figuiers dans le jardin. Mon mari a planté 6 figuiers. Sur 2 de ces figuiers, il a greffé 3 genres de figues. Et nous commençons, dépendamment de la météo, en principe, nos figues début juillet. Je fais 6 genres de confitures de figues. Donc, je fais les figues noires aux écorces d'orange. Nous avons un ami qui a une orangerie au sud. Et donc, nous allons en novembre, décembre cueillir ces oranges parce qu'elles ne sont pas traitées. Je les épluche et je conserve les écorces au congélateur pour les utiliser durant la saison des confitures.
D'accord.
Et puis, nous avons la confiture de figues noires aux épices, parfumée à la badiane et à la cannelle. Ça, c'est un peu ma culture occidentale parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été en France. Donc, c'est une confiture qu'on déguste avec les terrines, les foie gras et certains fromages comme un vieux comté, un roquefort.
Ah, voilà, qui était le Liban, là.
Et, bah non, mais on
avec
revient
un certain
au Liban,
labné, que, c'est délicieux.
Je vais vous dire, non, avec ce qui est délicieux, vu la crise économique maintenant et la dépréciation de notre monnaie nationale, donc on ne pourra plus acheter beaucoup de fromage français. J'ai essayé ça avec le chinklish dont Karim parlait. Et c'est très bon, le mélange est bon. Et il faudra que tu essaies, Karim.
Oui. Donc la figue magique pour la monnaie, incontournable. Il y a aussi des fleurs, les roses, j'imagine, non?
Il y a les figues entières qui sont conservées dans un sirop parfumé au géranium rose, qu'on appelle nous en arabe le atr. Et le géranium rose, c'est une fleur dont on fait un sirop avec les feuilles. Et qui est très bon et très rafraîchissant. Elle fait un goût de rose.
Donc on a la confiture, on a aussi les mélasses. Alors les mélasses, c'est vraiment un trésor de chez vous, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on pourrait décrire la mélasse? Et une mélasse emblématique, peut-être la mélasse de Grenade, Karim Haïdar?
La mélasse, en fait, oui, c'est aussi une manière de conserver le fruit. En réalité, généralement, et c'est une concentration.
Un
en fait, on fait une réduction. Ça s'appelle une réduction à chaud. C'est une technique classique de cuisine. C'est-à-dire qu'on met une certaine quantité de jus et on met ça sur le feu et on attend que ça s'évapore. Et plus on l'évapore, plus la mélasse est concentrée. Mais il faut bien entendu partir du bon fruit. Donc, il faut déjà un fruit de qualité. Alors, quand on parle de la mélasse de grenade, il faut tout d'abord que tout le monde sache qu'il existe plein de sortes de grenades, mais essentiellement deux grandes catégories. La grenade qui est sucrée et la grenade qui est aigre. Donc, qu'on dit être aigre, qui en réalité est acide, est une grenade acide. Et la mélasse de grenade se fait avec la grenade acide. Cette grenade acide est pressée. Et ensuite, il y a une réduction qui se fait normalement à 7 fois le volume. Ça veut dire que 7 litres de jus de grenade donne 1 litre de mélasse de grenade. On peut réduire un peu plus, un peu moins, suivant ce qu'on aime. On sale juste un tout petit peu, c'est pour la préservation. Et normalement, on ne doit rien rajouter d'autre. Alors attention, bien sûr, la plupart des mélasses de grenade sont totalement industrielles, avec du colorant, du caramel, des choses
de
horribles,
vraie,
etc.
Donc, grenade acide.
Donc, voilà, et c'est tout. Et on fait ça, et
pas
ça se conserve. Non, parce que en réalité, le fruit comporte du sucre. Et le sucre qui va en fait permettre la préservation, comme dans une confiture, c'est simplement le fait que le sucre de 7 litres de jus va se retrouver dans un seul litre parce que le sucre ne s'évapore pas. Donc vous allez avoir quelque chose d'épais d'abord, un peu comme presque une confiture, épais, à la fois sucré et acide. Et c'est ça qui est magnifique. Et ça fait un produit magique d'assaisonnement, de déglaçage et même de cuisine dans différents produits. On peut faire plusieurs plats avec cette mélasse de grenade. Il y a aussi des mélasses de raisin.
C'est la mélasse de verjus.
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une mélasse, en fait. Le verjus, peut-être Yousra va nous dire.
Yousra.
Alors, le verjus est un produit du terroir que nous partageons avec vous, avec la France. Moi, le verjus que je fais est un verjus qui est filtré. Parce qu'il y a différentes façons de faire le verjus. Il peut, Karim avait raison dans un sens où on peut le cuire très longtemps. On peut cuire le jus de raisin acide pendant très très longtemps pour en faire un genre de mélasse. Maintenant, il ne devient pas aussi noir que la mélasse de grenade. Il devient plutôt rouge foncé, mais il devient beaucoup plus compact. Moi, je vais plutôt vers un verjus qui est plus léger, qui est un verjus qui ressemble au verjus du Périgord, qui est doré. Et qui assaisonne très bien les salades et la taboulée surtout, que nous utilisons souvent pour remplacer le citron.
D'accord, voilà. Donc acide, la taboulée, on est d'accord, cette salade emblématique, libanaise, beaucoup de persil, plat.
Voilà, et qui est tout sauf de la mounée, puisqu'il faut qu'elle soit
totalement fraîche
et
c'est
totalement de produit. Voilà. Mais le verjus, effectivement, pour la taboulée, nous on l'utilise aussi, enfin moi j'utilise dans la boutique, mais le verjus dont parle Yousra, pas la mélasse de verjus, notamment par exemple pour cuire des feuilles de vigne. Et alors la feuille de vigne, c'est intéressant aussi, parce qu'elle se conserve. Alors, elle ne se conserve pas préparée, mais on cueille les feuilles en saison, c'est-à-dire peu avant les vendanges, Yousra me corrigera si je dis n'importe quoi, et ensuite on les préserve pour pouvoir les utiliser, pour cuisiner avec et rouler différentes choses pendant toute l'année.
Mmh. On les préserve dans de l'eau, dans de l'huile, Yousra?
Les feuilles de vigne, on les préserve dans de la saumure.
De l'eau et du sel.
Mais on les cueille en tout début de saison, bien avant les vendanges. Par exemple, chez moi, j'ai du Cabernet Sauvignon, les feuilles du Cabernet Sauvignon ne sont pas bonnes pour, elles sont plus épaisses.
On s'en souviendra. Attention, oui. Ne pas prendre les feuilles de Cabernet Sauvignon. J'ai posé la question en préparant cette émission, évidemment, à Barbara Massad, qui est écrivain et qui est passionnée de culture culinaire également. Elle a écrit plusieurs livres sur la culture et les traditions culinaires au Liban. Les mezzés, bien connus. Manouche également, ces pains qui font le sel du quotidien. Et sur la mouné, bien sûr, une enquête pour un aspect fondamental de la culture libanaise.
La mouné représente pour moi une identité culturelle, c'est un héritage tout à fait libanaise, c'est une façon de vivre à travers les saisons et de conserver l'abondance de cette saison dans un jar ou bien de sécher, etc.
La mouné, est-ce que c'est un travail en groupe qui permet de maintenir justement un lien social entre les gens dans un village par exemple?
Oui, dans le passé c'était tout à fait ça. C'était la communauté qui se mettait ensemble pour faire la mounée. Surtout, par exemple, pour la viande confit, c'était comme une célébration. Et ça se faisait en groupe. Tout le village travaillait dessus. La viande confit qui s'appelle Awarma. C'est toute une histoire parce que l'agneau devenait comme un enfant pour la famille. Et souvent, c'était la maman qui gavait cet agneau. Mais d'une façon, elle chantait, elle lui parlait pour qu'il soit à l'aise, qu'il soit pas tendu, pour qu'il mange. Et à la fin de l'été, le mois de septembre, c'était la période où on faisait le awarma. Ils utilisent chaque morceau de l'animal. Alors pour moi, c'était une façon d'accepter que l'animal meurt. Et c'est une expérience que je n'oublierai jamais.
La place de la femme est très importante.
Oui, elle est très importante. Et d'ailleurs, c'est la femme qui est le boss dans ce domaine. La femme, c'était elle qui était responsable de la monnaie, de garder le manger pour la famille. Elle avait même une petite clé qu'elle gardait et que personne d'autre n'avait droit pour garder toutes ses réserves à la maison. Dans une pièce à la façon traditionnelle. La maison était construite pour pouvoir mettre des sillots dans la maison, pour pouvoir remplir ces sillots avec de la monnaie. Il y a une ville au sud du Liban qui s'appelle Mardouche, on dit en arabe, en avril. Toutes les fleurs d'oranger sont partout dans les arbres. On marche dans le village, on se sent dans un autre monde. Tu marches et tu sens ces bonnes odeurs. La fleur d'oranger, maintenant je suis devenue accro. Et ce que je fais chaque jour en hiver, je bouille de l'eau et je mets fleurs d'oranger et fleurs de rose. Et je l'appelle baklawa in a cup. Et je mets du miel dedans. Alors, vous pouvez pas imaginer le goût de ça. C'est comme si vous prenez un dessert, mais sans les calories.
L'importance de la mounée comme ciment social, Karim Haïdar.
Oui, tout simplement comme à chaque fois, tout le monde, dans un village ou dans une ville, se retrouve à faire la même chose et se retrouve à consommer ces mêmes produits de la même manière et à parler des mêmes choses. Parce que finalement, tous ces produits sont des produits extrêmement simples, souvent à la portée de tout le monde, et notamment à la portée des personnes les moins aisées. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mystère, les premiers à être sortis de la mounée sont les personnes les plus riches qui ont été voir ailleurs et qui justement sont celles dont on parlait au début de l'émission, qui vont aller chercher leurs produits dans d'autres pays, qui font venir d'autres produits, qui ont eu les premiers réfrigérateurs, les premiers congélateurs, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas une personne qui en a besoin pour une question d'argent ou non, on en a besoin à la fois pour préserver notre planète, mais on en a besoin aussi pour revenir dans nos traditions, s'occuper de notre terroir et finalement se rendre compte que notre condition d'humain universel n'implique pas d'être détaché de ses racines.
Yusra, c'est important pour vous justement d'être en contact avec les femmes du village. Ça crée vraiment un lien de faire cette mounée avec elles?
Et oui, exactement. Ça crée beaucoup de liens. Alors, j'ai fait la connaissance de ces dames quand j'ai décidé de faire nos maisons portes ouvertes. J'ai demandé à un co-village qui était la meilleure, qui faisait le kechet, qui faisait, et on m'a donné des adresses, et j'ai été chez ces femmes. Bon, au début, c'est des traditions qui sont assez jalousement gardées. Elles ne vous donnent pas facilement le savoir-faire, la recette, etc.
Et heureusement.
Mais quand elles vous voient passionnées et impliquées, elles commencent à s'ouvrir, elles commencent à vous raconter, et ça crée vraiment, ça tisse des liens. elles m'ont appris à faire beaucoup de choses. Et moi, de mon côté, parce que j'ai une double culture, si vous voulez, j'ai ma culture libanaise orientale, mais j'ai une culture aussi un peu occidentale. Donc, je leur ai appris à faire certaines confitures qu'elles ne connaissaient pas.
Un bon partage.
Exactement, c'est un partage.
J'avais une question pragmatique. Alors, après toutes ces évocations très sensibles, c'est celle des récipients.
Moi, j'utilise beaucoup les bocaux en verre. Je trouve que c'est les meilleurs récipients pour conserver la monnaie. Je présente en général toute ma monnaie, que ce soit le beurre roule, l'afriqué. On n'a pas parlé de l'afriqué, pourtant c'est un élément essentiel de
évidemment,
la monnaie.
Évidemment, l'afriqué, c'est le blé vert.
C'est du blé vert qui a été cueilli un mois avant terre et puis qui a été grillé et séché au soleil ou torréfié. C'est un incontournable,
c'est un
exactement.
Magnifique.
C'est magnifique. Oui. Ouais. Donc c'est une tradition dans le goût du monde. Je vais vous demander à chacun un ingrédient et un ustensile honneur aux femmes, chez Ayousra.
L'ingrédient, on a parlé de la figue, donc c'est déjà fait. Pour l'ustensile, c'est la marmite. Parce que pour moi, la marmite est le symbole féminin par excellence. Il y a quelque chose de très convivial dans une marmite. La marmite est synonyme de partage. Il y a quelque chose de maternel dans la marmite. C'est dans le creux d'une marmite qu'une mère déverse tout son amour pour cuisiner à sa famille. Il y a aussi un peu de magie dans la marmite. C'est dans ce récipient que les magiciens, que les alchimistes cuisinent leurs potions et leurs élixirs.
Merci Yousra. À vous Karim.
L'ingrédient, on en a parlé aussi, c'est la liée, donc le gras d'agneau, parce que ça permet cette préservation très particulière. Et l'ustensile, pour moi, on en a parlé également, ce serait le soleil. Parce qu'en fait, il y a cette chose assez incroyable, c'est que c'est justement au soleil du moment de la production. C'est de ce soleil-là qu'on se sert pour conserver souvent, pour faire sécher, etc., comme le disait Yousra, donc à une certaine période. Et finalement, le soleil est cet ustensile qui nous est offert, qui est extérieur à nous, qu'on n'a pas besoin de fabriquer. Et je trouve extraordinaire de pouvoir simplement mettre un produit au soleil et pouvoir le récupérer autre après. C'est un peu de la magie. Sans casserole.
Le soleil, merci. Karim Haïdar, mille fois, merci d'avoir arpenté avec nous le chemin de ce savoir-faire. Les mots et le ciel, boutique à manger, où se retrouver, où partager et où apprendre à cuisiner également. C'est au 81 rue Olivier de Serres à Paris dans le 15e et sur les réseaux sociaux bien sûr. Yousra Boustros, merci infiniment à vous. Votre maison dans la plaine de la Beka Ouest a une adresse et un site internet également. L'adresse sera sur notre page. Vous, chez vous, faites-vous aussi des réserves et des provisions de viande ou de légumes. Avez-vous des souvenirs que vous souhaiteriez partager avec nous? On aime beaucoup les lire. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. Belle semaine à tous.